Chers auditeurs, je vous souhaite bienvenue dans notre émission consacrée à l'art et à l'histoire. Et nous allons parler aujourd'hui d'un thème qui m'est particulièrement cher, parce que j'aime le Moyen-Âge, mais ce n'est pas seulement un art qui concerne le Moyen-Âge. L'enluminure existe toujours et c'est vrai que pendant de longs siècles, les manuscrits, bibles, lapidaires, bestiaires, des livres d'heures et livres de prières ont été enrichis d'innombrables images peintes, décorées, de lettrines superbement enluminées et embellies d'ornementations variées dans les marges. C'est surtout pendant les premiers siècles de l'ère chrétienne, lorsque se développera le codex, c'est le nom que l'on donne au livre qui a à peu près le format de nos livres actuels, que vous pouvez admirer d'ailleurs dans la stature de la cathédrale de Chartres. Les personnages du Nouveau Testament tiennent tous un codex, en général, quand ils répondent à la parole de Dieu. Donc c'est grâce à ce codex que l'art de l'enluminure se développera et s'épanouira, car le parchemin, tout le monde sait que ce sont des peaux d'animaux, surtout de bœufs, d'autres animaux, de l'agneau, qu'on ne sait plus.
De la chèvre, du veau.
Vous entendez déjà mon invité parler, plus robuste que le papyrus qui permet la superposition de couches de peinture. L'écriture elle-même devient une activité spécialisée aux mains de véritables professionnels, les copistes œuvrant dans les scriptoria, c'est le nom que l'on donne à ces ateliers, principalement dans les monastères. Leur art, celui de la belle écriture, s'appelle la calligraphie. Voilà, et cet art ne s'est pas perdu depuis le Moyen-Âge. Nous avons aujourd'hui encore des artistes qui pratiquent la calligraphie, l'art d'écrire avec de jolies lettres, et l'enluminure et la chrysographie. Et voilà, je lance un pavé dans la mare et je demande à notre invité d'aujourd'hui, Éric Montigny, qui est calligraphe justement, chrysographe et enlumineur, de nous dire quel est son métier, quel est son art qui ne s'est pas perdu, heureusement parce qu'aujourd'hui, son art exercé encore dans des contextes différents, certes, mais les compétences servent aux entreprises, aux associations et aux particuliers, car dans notre société où tout tend à s'uniformiser, on a besoin un peu de beauté. Bonjour Éric, merci d'être
Bonjour.
Avec nous. Qu'est-ce que c'est donc pour vous ce métier de calligraphe, d'enlumineur et chrysographe? Peut-être il faut expliquer ce mot.
Donc la calligraphie, eh bien, ça a déjà été présenté, donc c'est l'art de la belle écriture, donc c'est quand même une histoire qui est très longue, puisque nous sommes basés sur l'alphabet romain, qui remonte à peu près à 2700 quelques années par rapport aux formes archaïques, donc ça fait quand même un grand laps de temps. Et puis l'enluminure, donc c'est vraiment le décor au niveau d'une page, comme on faisait autrefois, c'est-à-dire qu'on pouvait mettre un petit peu de vigne, toute petite, qu'on appelait la vignette. On mettait aussi de la dorure, et c'est la dorure qui va donner le terme d'enluminure, puisque lorsqu'on mettait de l'or dans un manuscrit, on ouvrait le livre, la lumière tombait dessus, l'or réfléchissait la lumière, et donc, on avait l'impression que la lumière, au sens physique, sortait du livre. Après, ça va être la sagesse du livre. Donc, enluminare, mettre en lumière. Quant à la chrysographie, eh bien, c'était une technique qui permettait d'écrire avec de l'or. Alors, soit de la feuille d'or, ou soit avec de l'or qui avait été réduit en poudre.
Véritablement, de l'or réduit en poudre avec ce support, on peut écrire sur le support.
Oui, on peut écrire dessus. Alors l'or est un métal, comme on sait, qui est très particulier, puisque l'or est un métal qui est mou, et c'est aussi un métal qui colle à lui-même. C'est pour ça que lorsqu'on mettait en enluminure une première couche de feuille d'or, on pouvait mettre une deuxième couche de feuille d'or sans avoir à mettre de colle entre les deux couches. Rien qu'avec la pression, ça allait coller. Donc réduire l'or en poudre, ça c'était un problème, puisque l'or collait lui-même. Donc ce qu'on faisait, eh bien, on réduisait déjà dans un premier temps l'or en feuilles. Les feuilles d'or, plusieurs feuilles, étaient mises dans un mortier.
Donc pour réduire en feuilles, ça veut dire qu'on prend une certaine quantité d'or et après il faut battre.
Alors
il faut
un tout
battre.
Petit morceau, c'est ça.
J'imagine,
ouais,
il faut battre.
Donc on battait l'or, donc on avait des batteurs d'or et l'or qui était battu, eh bien s'étalait jusqu'à faire des feuilles. Donc les feuilles d'or étaient mises dans un mortier. On mettait du gros sel pour faciliter, eh bien, à ce que l'or soit déchiqueté en petits morceaux. Pour éviter que les petites particules d'or collent à elles-mêmes, eh bien, on rajoutait un isolant qui était tout simplement un peu de miel. Voilà. Donc, on faisait un travail. Une fois que les feuilles d'or étaient bien réduites en poudre et isolées à chaque fois par le miel, eh bien, on rajoutait un petit peu d'eau. Une fois le travail terminé, on remuait. Le miel et le sel passés en solution. L'or, évidemment, qui est très lourd, bah, décompte rapidement. On vide l'eau et on rince une deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, cinquième fois. Et en général, au bout de 5-6 fois, le dernier rinçage, eh bien, pour le peu d'humidité qui est resté au fond du mortier avec l'or, on laissait s'évaporer. L'or en poudre était récupéré, mélangé à une gomme, donc gomme d'acacia par exemple, et puis le tout était versé dans une coquille de moule. D'où, lorsqu'on utilise l'or en poudre, on utilise donc l'or à la coquille. Le terme est resté.
Donc vous ne le faites pas vous-même, c'est déjà comme au Moyen-Âge, deux métiers séparés, l'un préparer la peinture ou l'encre, si on peut parler de l'encre quand on parle de poudre d'or.
Oui, alors bon, je ne vais pas parler d'encre, parce qu'une encre, très souvent, c'est une teinture. Donc oui, effectivement, je ne prépare pas l'or, ni pour le battre, ni pour le réduire en poudre.
Alors on vient d'expliquer le terme de chrysographie dans l'enluminure et la calligraphie. J'imagine que la forme d'écriture a évolué au cours des siècles également.
Oui, l'écriture a fortement évolué au niveau de sa graphie. On voit bien que les écritures, on va dire, la base même de notre système d'écriture, c'est l'écriture qu'on appelle capitale romaine, qui a servi eh bien, à écrire nombre de choses sur les bâtiments officiels, sur des tombes et ainsi de suite. Mais on avait d'autres types de calligraphie, comme une rustica, que les Romains faisaient sur du papyrus. Et là, lorsque, on va dire, l'Égypte n'arrive plus à fournir assez de papyrus donc à l'Empire romain, c'est là où on va changer de support et passer au parchemin. Et le parchemin, au départ, pour la petite histoire, ce qui est amusant, était considéré comme un support rustre et barbare. Voilà.
Parce que c'est d'origine animale, alors que le papyrus était d'origine végétale et l'Église préfère toujours les choses d'origine végétale plutôt qu'animale.
Oui,
les documents importants du Vatican même étaient pendant longtemps encore sur papyrus.
Oui. Tout simplement, je pense qu'il y avait aussi ce phénomène que lorsqu'il y a quelque chose de nouveau, eh bien, les gens sont méfiants. Et de même, quand le papier commence à se répandre chez nous en Europe à partir du XIIIe, eh bien, on avait un dicton qui disait « écrire des livres sur papier, c'était perdre son temps et son argent ».
Alors, les parcheminiers, c'était aussi un métier au Moyen-Âge pour préparer les peaux des bêtes. Est-ce qu'on peut trouver encore aujourd'hui des parchemins pour le plaisir, sans doute ?
Alors, on trouve du parchemin, parce que le parchemin a servi à énormément de choses différentes. On trouve encore quelques personnes en France qui préparent du parchemin. On en trouvera évidemment en Angleterre, puisqu'il y a toujours le nom de Colise qui circule. Colise était fournisseur de Sa Majesté, la Reine, maintenant du Roi, et puis du Parlement. Et on trouve aussi quelques parcheminiers, étrangement, aux États-Unis.
On utilise encore le parchemin pour des actes officiels, particulièrement solennels, par exemple ?
Alors, on utilise plus dans les pays anglo-saxons du véritable parchemin par rapport à chez nous. Chez nous, je crois que d'un point de vue officiel, on n'utilise plus du tout de parchemin.
On peut encore parler aussi un peu des outils nécessaires pour exercer ce métier de calligraphe.
Oui. Alors, au niveau des outils, nous, on n'a pas besoin de beaucoup d'outils. Hein. On a besoin de quelques plumes, un porte-plume, du papier et puis une encre.
Mais pour avoir participé à un de vos cours, je me rappelle que vous avez toute une panoplie de plumes. Il n'y a pas qu'une plume.
Oui, il y a quelques plumes. Il n'y en a plus beaucoup par rapport à ce que ça a été. On va utiliser des plumes de type biseauté ou carré, qu'on appelle, qui nous permettent de faire nombre d'écritures différentes. Des écritures romaines, des écritures carolingiennes, des gothiques carrés, ainsi de suite. Et ensuite, nous avons des plumes pointues. Et les plumes pointues vont nous servir à des écritures à pression, qu'on appelait, type anglaise.
On va justement introduire ce thème après une petite pause musicale qui sera consacrée à Purcell.
Thank you.
Nous sommes avec Éric Montigny, qui est avec nous aujourd'hui dans notre studio de Radio Grand Ciel, qui nous parle de la calligraphie, de l'art de l'enluminure qu'il pratique, c'est son métier. Il donne d'ailleurs des cours à Champs-Gâtine, je sais. Vous faites des visioconférences aussi pour les personnes qui ne peuvent pas forcément se déplacer. Et puis aussi, vous êtes chargé de cours au Centre international de vitrail depuis de longues années. Donc si des personnes ne voudraient vous contacter, ils trouvent sur le site internet que vous trouverez sur les coordonnées sur le site de Radio Grand Ciel. Vous trouvez des petites vidéos, des petits extraits, des explications. Ça donne envie effectivement de suivre vos cours. Alors, Géric Montigny, vous avez expliqué ce que c'est que l'art de l'enluminure, de la calligraphie. L'écriture a évolué. Vous nous avez dit qu'effectivement, les différentes civilisations ont changé d'écriture. Aujourd'hui, on ne peut parfois même pas se relire soi-même parce qu'on ne pratique plus la calligraphie à l'école. Vous, enfant, vous deviez encore calligraphier des lettres. Je ne sais pas, vous êtes jeune aussi. Moi, en tous les cas, nous, on ne le faisait déjà plus. Non, ça dépend du professeur.
Oui, puis la calligraphie, c'est basé, il ne faut pas l'oublier, sur la concentration, la maîtrise du geste. C'est pour ça que pratiquer la calligraphie, même pour les gens qui veulent découvrir, commencer, ça fait un bien fou, hein, puisque c'est l'une des rares activités humaines qui stimule autant de zones différentes du cerveau.
Et surtout, on est obligé de ralentir.
C'est ça.
Ça, c'est terrible.
Oui. Donc, moi, je dis très souvent à mes élèves, il ne faut pas aller plus vite que la musique. Non. Nous, par rapport à notre société qui va beaucoup trop vite par rapport à l'être humain, nous sommes rythmés par notre respiration, par les battements du cœur. Bien, il faut essayer de ralentir et de se caler sur ce rythme qui est naturel. Et lorsqu'on ralentit et qu'on va développer la concentration, eh bien, nous allons acquérir une maîtrise gestuelle de plus en plus importante. Et ça nous permet ensuite d'avoir ce qu'on appelle au niveau de la plume des micro-déplacements. Donc des choses tout à fait étonnantes.
Au pouvoir de concentration, cela nous oblige à vraiment nous concentrer sur l'objet de ce que nous faisons.
Et la respiration, voilà. Et c'est pour ça que ça fait du bien, eh bien, aux adultes qui ont une vie un peu folle de nos jours, et même pour les plus jeunes, pour les enfants en primaire ou les collégiens. Voilà, ça permet eh bien, de retrouver un rythme, ou même de trouver à leur niveau un rythme qu'ils n'ont jamais connu.
Alors, justement, on va revenir à l'écriture anglaise dont vous vouliez nous parler plus particulièrement. Alors, quelle est la particularité de cette écriture? Moi, spontanément, j'ai cru que c'était quelque chose de plus carré, insulaire. Pas du tout. C'est une écriture très élégante.
Alors, c'est une écriture qui est très élégante, puisque là aussi, pendant très longtemps, il faut bien imaginer que les gens pouvaient circuler beaucoup plus librement que de nos jours. Ça, les gens sont toujours un peu surpris. Il ne faut pas oublier qu'autrefois, au Moyen-Âge, à la Renaissance, les gens n'avaient pas de passeport pour aller d'un pays à un autre. Il n'y avait pas ce genre de douane. Les gens étaient libres. Donc, pour nous, dans l'évolution de l'écriture, après les écritures du Moyen-Âge que nous connaissons, dans les écritures gothiques, par exemple une gothique carrée, vous avez un très bel exemple de gothique carrée donc dans la pierre, tout autour du cœur de la cathédrale de Chartres. Donc voilà.
Et ça fait... Côté nord, là, il y a des inscriptions sur le tour du cœur.
Oui, surtout le pourtour du cœur. Donc là, on a une très belle inscription en gothique carré. Eh bien, à la Renaissance, on va changer un petit peu les styles d'écriture, puisqu'il y a une redécouverte de l'Antiquité. Au niveau de l'Italie, notamment à Rome, eh bien, il y a un nombre de scribes qui vont se baser sur la réforme de Charlemagne, que l'Italie n'avait pas connue, puisqu'il y avait le Mont Cassin, qui était un centre de production important et qui rayonnait avec un type d'écriture qui était différente. À la Renaissance, les Italiens considèrent que la réforme de Charlemagne, donc la Caroline, est un modèle très pur, et ils vont faire une écriture qu'on va appeler, nous, par la suite, humanistique. Et une autre écriture qui voit le jour, donc, dans la chancellerie du Vatican, qui est une écriture qui est penchée, que les Anglais vont appeler italique. Eh bien, c'est une écriture que nous, on va appeler écriture de chancellerie, qui est très élégante. Ce type d'écriture, évidemment, va être adopté par toutes les chancelleries européennes par la suite. Nous allons avoir en Italie, à la Renaissance, les premiers manuels d'écriture. Et ensuite, nous allons avoir les premiers manuels d'écriture en France. La France était encore un pays qui, à cette époque, rayonnait incroyablement. Et le premier manuel, par exemple, d'écriture qui va avoir lieu en Angleterre, c'est un manuel qui a été écrit par Jean de Beauchesne, qui était un Lyonnais. Et on trouve dans ce livre une dédicace à Sa Majesté la Reine Élisabeth Ière. Et donc Élisabeth Ière va apprendre dans un manuel qui a été réalisé par un Français.
Et c'est à partir de quelle époque, est-ce qu'on le sait, on va commencer à lier les lettres, parce qu'on ne liait pas toujours, justement,
non.
Et on ne faisait même pas des césures entre les mots, entre les phrases. Donc il fallait bien
connaître. Ça évoluait doucement. Oui. Nous, au niveau de l'écriture, qu'il soit humanistique ou l'écriture de chancellerie, ce ne sont pas des écritures cursives encore. On ne va pas attacher les lettres entre elles. Elles vont se toucher quand on regarde effectivement un exemple. Il faut attendre un peu plus longtemps. Et par rapport à ce type d'écriture, donc de chancellerie, qui va évoluer un petit peu, eh bien, on va avoir des modifications qui sont très importantes en France, puisqu'il faut imaginer qu'à la Renaissance, nous n'avons pas qu'un type d'écriture utilisé. Il y a plusieurs types d'écriture, plusieurs formes. Par exemple, la forme de l'écriture notariale n'est pas l'écriture de la cour, n'est pas l'écriture épistolaire, et ainsi de suite. Et d'ailleurs, ça pose de grands problèmes chez nous. Et nous allons avoir l'administration qui va demander eh bien, qu'on simplifie un peu les choses et qu'on utilise moins d'écriture. Et donc, avec un grand maître d'écriture français, Louis Barbe d'Or, eh bien, l'administration royale, vers 1650, ouais, c'est ça, va utiliser en définitive plus que trois grands types d'écriture pour l'administration, qui sont des écritures très connues, hein, qu'on retrouve à l'état civil. Une qui s'appelait la ronde, l'autre qui était la coulée, donc une ronde qui était penchée, et puis une qui était entre les deux, qu'on appelait bâtarde. Et c'est sur ce type d'écriture qui a été largement copié par les Anglais, eh bien que ça va évoluer, qu'ils vont changer un petit peu le type d'outil à utiliser. Non plus une plume taillée avec un biseau, mais une plume qui va être taillée en pointe. Et ça, ça va être une écriture qui va être diffusée extrêmement rapidement par le commerce britannique, puisqu'ils vont devenir la première puissance commerciale. Et donc, cette écriture a plusieurs avantages. Elle est lisible, elle est très élégante, et elle est assez rapide pour qui est bien formé à tracer. D'où ça, c'est le début de l'écriture anglaise, que les Anglais ne vont pas appeler anglaise. Hein. Ils vont l'appeler écriture ronde anglaise. Alors que nous, on va l'appeler l'anglaise, parce qu'elle vient d'Angleterre. Et elle aura le même nom, donc de type d'écriture anglaise, chez les Italiens, chez les Espagnols, et ainsi de suite.
On va faire une petite pause musicale. Cette belle musique est une belle réintroduction de notre sujet d'aujourd'hui, la calligraphie, l'écriture anglaise.
Ouais.
L'écriture anglaise dont Eric Montigny nous a donné quelques particularités. D'ailleurs, il nous a apporté un magnifique spécimen. comment est-ce qu'on arrive à faire ce qu'on appelle les pleins et les déliés ? Donc, ces parties qui sont extrêmement fines et après, on passe à des passages qui sont plus épais. Est-ce qu'il faut passer deux fois, du moment que la plume est pointue ?
Non, on passe pas deux fois. Là, eh bien, c'est beaucoup, beaucoup d'entraînement, puisqu'il faut développer une très, très grande sensibilité de la main par rapport à une plume pointue. Plume pointue, comme on peut imaginer facilement, c'est une plume qui risque d'accrocher. Et si on accroche des fibres du papier, on va ruiner le travail. Donc, ici, pour les parties déliées, il faut quasiment aucune pression sur la plume. Et quand on va avoir les parties pleines, là, il va falloir mettre un peu de pression. D'où on appelle ce genre d'écriture, dans les grandes familles d'écriture, une écriture à pression. Donc on a eu une écriture anglaise, il y a une variante américaine qui est basée sur l'écriture qui n'appelait pas coloniale eux, mais l'écriture, pardon, pas écriture anglaise, mais écriture coloniale qu'ils l'appelaient, jusqu'à leur indépendance. Et on va avoir aussi une variante en Allemagne, dans les pays germanophones.
Alors, qui utilise aujourd'hui ces écritures ?
Alors,
c'est demandé pour...
Alors, selon les pays, hein, tout ce qui est cet héritage culturel de l'écriture, dans les pays anglo-saxons, bah, ça marche toujours très très fort. Il y a toujours des calligraphes qui sont attachés auprès de, bah, du roi, donc Charles III, et puis du Parlement. Aux États-Unis, par exemple, on a 3 calligraphes à plein temps à la Maison Blanche. Voilà. Chez nous, malheureusement, nous avons tendance à perdre notre héritage culturel.
Oui, il fut un temps où vous avez rempli les pages des livres d'or, des donateurs de la cathédrale, par exemple,
oui,
pour Chartres au sanctuaire du monde. Il y a toujours des donateurs, mais effectivement, il faudrait peut-être remplir toutes ces pages.
Oui.
Un jour.
Quelques années
donc
de retard.
Ça peut toujours servir justement à mettre en valeur certains actes et certaines personnes aussi. Et
oui.
Donc, vous enseignez cet art aussi,
oui,
aux adultes, mais ce qui m'intéresse beaucoup, à côté de votre métier de formateur et chargé de cours au Centre international Vitrail et les visioconférences que vous donnez aussi. Par ailleurs, comment est-ce que vous transmettez cet art à des enfants qui n'ont pratiquement plus le stylo à la main, puisqu'ils ont l'iPhone, ils ont le téléphone, la tablette. Il paraît qu'il y a des enfants qui ne savent même plus tourner la page. Comment est-ce qu'on peut réapprendre aux enfants les beaux gestes?
Alors oui, effectivement, on peut parler de réapprentissage et voire malheureusement d'apprentissage, tout simplement. Donc, au niveau de l'enseignement auprès des enfants, eh bien, j'ai la chance d'utiliser des outils qui ne sont pas communs, donc la plume et le porte-plume. Donc, on a déjà ce côté un peu fascinant de l'objet, et puis ce côté ludique. Et donc, en commençant gentiment, eh bien, les enfants vont aussi découvrir que la plume, eh bien, va laisser une trace qui n'est pas la trace d'un stylo habituel, ni d'un stylet par rapport à une tablette graphique. Donc, à partir de là, eh bien, on commence gentiment, puisque je leur dis toujours, je ne veux pas 15 pages, je ne veux pas de la quantité, je veux même très peu de choses à la rigueur, mais de belles choses. Donc, on va travailler sur le beau, et on va prendre son temps.
Et l'enfant doit déjà se réapproprier cet instrument, savoir comment,
oui,
tenir une plume.
Alors on apprend, puisque la position, effectivement, de l'outil qu'on appelle l'outil scripteur dans la main de l'enfant, pour la plupart des enfants, c'est assez problématique. Puisque très souvent, ils vont saisir eh bien, un crayon, un stylo, un feutre, lorsqu'ils sont, on va dire, à l'âge de la maternelle. Et malheureusement, l'appréhension de l'outil n'est pas corrigée. Et donc, lorsqu'ils arrivent au CP, où il y aura plus d'écriture à faire, eh bien, ils ont des positions quasiment incroyables et très difficiles, même à leur niveau. Ce sont des positions qui génèrent de la tension. Et tout ce qui est tension, c'est pas très très bon.
Alors, ayant été gauchère dans ma jeunesse, et j'ai dû apprendre à écrire avec la main droite, j'avais longtemps du mal, ça créait des tensions dans la main. Est-ce que la calligraphie peut se pratiquer aussi par quelqu'un qui écrit avec la main gauche?
Oui. Le problème est simple du gaucher. Le problème du gaucher, c'est que personne n'a voulu lui apprendre une position de gaucher pour écrire dans la main gauche. Donc, on a eu pendant très longtemps cette superstition où il ne fallait surtout pas utiliser la main gauche. Mais en fait, si on utilise une position de droitier pour l'écriture, eh bien, c'est évident qu'il existe une position de gaucher. Et la position de gaucher, eh bien, on ne va pas avoir la feuille orientée de la même façon que pour le droitier. Et lorsqu'on apprend cette nouvelle position, très souvent pour le gaucher, il aura la même qualité de production qu'un droitier. Il n'y a pas de différence.
Donc ça peut se pratiquer même pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'écrire, ou justement ça permet de réapprendre à bien écrire?
Alors pour les gens qui n'ont pas l'habitude d'écrire, ça demande un effort supplémentaire, ça c'est clair. Comme je le disais précédemment, l'écriture est une activité cognitive supérieure chez l'être humain. Donc, c'est-à-dire que le cerveau, eh bien, a énormément de zones différentes qui vont être stimulées. Et très souvent, par exemple, lorsque les gens commencent la calligraphie, ne serait-ce que des adultes, eh bien, lors de la première journée en calligraphie, lorsqu'ils débutent, eh bien, il y a des traits qui sont extrêmement difficiles à faire, voire pas possibles. Tout simplement parce que les liaisons nerveuses n'existent pas, et donc le mouvement ne peut pas être accompli. Alors, comme le cerveau est très bien fait, eh bien, durant la nuit, très souvent, il y aura, eh bien, la création de nouvelles liaisons nerveuses. Et le lendemain, quand on rattaque, eh bien, les choses sont bien plus simples.
Donc on disait bien autrefois qu'on apprenait pendant la nuit. Aussi. Donc quelqu'un qui a du mal à écrire joliment, à apprendre l'écriture anglaise avec vous, ça permet de finir par apprendre à écrire de façon lisible et élégante et superbe, parce que c'est une écriture qui fait rêver, oui. Hein, c'est très, presque romantique. Est-ce qu'on peut parler de romantisme dans l'écriture ?
Oui, certainement. Et puis, c'est cette fascination de l'élégance de cette écriture. C'est une écriture... si on prend, par exemple, en comparaison, une écriture de type gothique carré. Si je fais un petit A minuscule, je vais faire 5 traits successifs minimum. Alors que si je trace une écriture de type anglaise, avec des caractères très compliqués, comme un B majuscule si je veux, avec toutes ses volutes, eh bien, à la rigueur, je n'aurai qu'un seul trait. Et donc là, il ne faut pas se tromper, dans le sens, la pression, ne pas accrocher la plume, ne pas avoir un trait heurté, il faut que ce soit parfaitement fluide. D'où, on imagine bien qu'il faut pratiquer, et lorsqu'on commence à réussir ce type de tracé, eh bien, c'est extrêmement gratifiant.
Donc, on n'a pas abordé le sujet. On va peut-être parler dans les dernières minutes de l'encre. Est-ce qu'on trouve aujourd'hui tout ce qu'il faut facilement pour...
Non, on ne trouve pas facilement les choses de nos jours.
On a les cartouches maintenant. Ouais. Comment est-ce qu'on écrit avec la plume? Il faut bien...
Alors bon, si on a une plume pointue déjà avec son porte-plume, c'est déjà un bon point. Il faut que la plume soit en état. Et une plume pointue, c'est une plume qui va souffrir énormément de par l'écriture. Et une plume pointue, si on l'utilise, on va dire, d'une manière un peu intense, elle va pas dépasser la durée de vie d'une semaine. Oui, il faut les changer. Et une plume carrée, ça va durer très longtemps. Et au cas une plume carrée, on peut la passer sur une pierre pour la rectifier. Pierre d'Arkansas, par exemple. Pas la plume pointue. Donc il faut avoir plusieurs plumes pointues à disposition, parce que si on accroche sérieusement la plume, c'est fini, il faut la changer.
Donc on va revenir à la plume de pigeon. Est-ce qu'on peut utiliser ce support facilement si on trouve une plume? On peut la tailler?
Alors, pas le pigeon. On va utiliser des volatiles qui sont beaucoup plus gros en général. On utilisait l'oie, et l'oie c'était évident parce qu'il y en avait dans tous les villages. On a utilisé la plume de cygne, on va utiliser la plume de corbeau, la plume d'aigle, lorsqu'il y en avait. Et comme par chez nous, en Angleterre, en France, il n'y avait pas assez de plumes de volatiles à un moment donné, au 18e par exemple, eh bien il fallait faire venir des plumes du nord de l'Europe et de l'est de l'Europe. Il y avait des lois qui interdisaient la vente de plumes de volatiles à l'étranger. Et les Anglais, dans le début du 19e par exemple, dans les années 1800-1810, ils faisaient venir à peu près dans les... 30 à 35 millions de plumes de dinde de la baie de Hudson par an. On n'avait pas assez. Alors pendant très longtemps, on a été très soft. Pour avoir une plume d'oiseau, ne courez pas après le cygne. Attendez que l'oiseau mue, il va perdre ses plumes et on ramasse les plus grandes. Après, il faut apprêter la plume.
Et pour les encres, juste pour terminer, c'est l'encre de sèche?
Alors on pouvait utiliser l'encre de sèche si on en a. Bon, malheureusement, c'est une encre qui ne dégage pas des effluves tels que le Chanel numéro 5. Hein. Ça, il faut le savoir. Donc non, on pouvait utiliser des encres que les gens fabriquaient autrefois avec la gale du chêne. Donc tout le monde avait des recettes pour fabriquer de l'encre. Les encres du commerce ne correspondent pas trop à notre pratique. Il vaut mieux utiliser au cas des peintures à base d'eau et ça marche très bien.
Bon, ça donne envie de se lancer dans l'écriture anglaise et dans la calligraphie tout court. Merci beaucoup, cher Éric Montaigny, de nous avoir introduit dans le monde de la calligraphie. Merci beaucoup aussi pour tout ce que vous faites pour la transmission de cet art. Il faut que les enfants apprennent à écrire, joliment écrire. Et à très bientôt. Merci à Simon à la technique. Et chers auditeurs, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.
Merci. I'm sorry.